Radio Musette vous présente La Voix du lâcher-prise. En compagnie de son invité, voici Dolores Lamarre.
Bonjour et bienvenue à cette émission du lâcher-prise de ce dimanche. Je le souhaite qui pour vous vous amène la paix, la détente, la relaxation. Et aujourd'hui, avec mon invitée Jacqueline Arbogast, nous allons contribuer à votre mieux-être, j'en suis certaine. Alors bonjour Jacqueline.
Bonjour Dolores.
Ça me fait plaisir de vous accueillir à l'émission La Voix du lâcher-prise.
Moi oui. Aussi, je suis ravie d'être ici.
Mais oui. Alors Jacqueline, d'abord orthophoniste, aussi orthopédagogue. Vous avez quitté vos terres de France pour venir vers nous,
oui.
Il y a déjà plusieurs années.
En 98.
Oui, et vous nous apportez vos connaissances, vos bons services. On va découvrir tout ça. Vous êtes auteure, conférencière, animatrice d'atelier, animatrice aussi à la radio,
oui.
j'ai vu. Et bon, plein de choses qu'on va découvrir de vous. Alors, qui est Jacqueline Arbogast?
Une personne en devenir. Je sens vraiment que c'est que j'avance dans la vie, mais pas seulement en âge. Ça, on peut difficilement faire autrement. Mais dans mes réflexions, dans qui je suis, dans quelles sont mes valeurs, dans ce que j'aime et dans ce que j'ai envie d'apporter au monde. Oui, un être en devenir.
Un être en devenir.
Oui.
C'est vrai, nous sommes toujours en transformation.
Oui,
toujours
c'est dans ce sens-là, en transformation, oui.
Est-ce que vous croyez qu'aider les autres peut contribuer justement pour nous-mêmes à une propre évolution?
Oh, bien sûr. Bien sûr, les questions que me posent mes clients, les réflexions que ça m'amène à avoir, tout ça me fait grandir aussi, bien sûr. Je pense que c'est dans un échange. Eux viennent chercher peut-être de l'aide chez moi, j'en suis sûre, ils viennent chercher de l'aide. Mais moi, j'ai leur énergie, j'ai leur expérience de vie, j'ai leur personnalité, j'ai tout ce qu'ils apportent. Après une séance de thérapie, je ne suis jamais fatiguée parce que c'est vraiment dans l'échange. Donc oui, ça oui. m'apporte beaucoup.
Aider, puis on voit nos problèmes, oui. nos propres problèmes
oui.
de façon différente et plus léger.
Puis ça nous fait évoluer, ça nous fait réfléchir. Quand je suis confrontée à un problème, je dis, bon, toi, qu'est-ce qui se passe chez toi à ce moment-là pour que tu le vois comme ça?
Jacqueline, vous m'avez confié un petit peu avant qu'on entre en onde, alors qu'on échangeait, quelque chose qui m'a touchée beaucoup. Et comme l'émission de La Voix du lâcher-prise veut apporter de l'espoir aux auditeurs, vous m'avez confié que vous avez souffert étant enfant de problèmes.
Oui.
Est-ce que vous avez le goût d'en parler?
Oh, mais avec plaisir. Si ça peut aider des personnes, ça fera vraiment très plaisir. En fait, étant enfant, j'étais ce qu'on dirait une enfant instable, qui avait des problèmes de langage, avait du mal à dire les mots et à les phrases, et par la suite, qui était dyslexique, dysorthographique, donc je n'arrivais pas à lire et encore moins à écrire. Et du coup, ça m'a suivi longtemps, parce qu'à l'époque, il n'y avait ni orthopédagogue ni orthophoniste, ce qui fait qu'on pensait que j'étais paresseuse, que j'avais des problèmes d'intelligence, que j'étais bête. Et j'ai traversé des moments extrêmement difficiles, mais ça allait des petites choses simples comme mes frères jouaient, puis moi je devais travailler pendant ce temps parce que j'étais forcément plus lente. Là où ils apprenaient leur dictée en 2 minutes, moi il me fallait une demi-heure, 3 quarts d'heure, voire 1 heure à réécrire et réécrire. J'avais des problèmes à l'école, évidemment, parce que, imaginez-vous, rester 8 heures devant un tableau où vous avez du chinois marqué de vous et on ne vous a jamais expliqué la correspondance, le sens. Au bout d'une heure, ça va, au bout de 2 heures, ça va, mais quand vous avez 6, 7, 8 ans, que vous êtes jeune, à un moment donné, l'attention se disperse, vous êtes ailleurs, vous vous agitez, et donc j'avais des problèmes à l'école. Et puis, je me sentais à part. J'avais comme un statut à part, même dans ma famille. Donc, tout ça, mis bout à bout, a été assez difficile. Et j'ai des souvenirs très douloureux. Je vous en ai raconté un qui consistait, on avait les mots à apprendre pour la dictée, 10 mots le soir pour la dictée du lendemain. Et puis, même si ma mère les avait fait écrire et écrire et encore écrire, le lendemain, arrivé au moment de la dictée, je m'en souvenais plus, j'avais des fautes. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai une de mes institutrices qui m'avait pris en grippe. et elle me faisait marcher avec mon cahier attaché dans le dos dans la cour de récréation, ce qui était la honte suprême, parce que j'avais fait trop de fautes. Et c'est à la suite de ces tours de récréation avec mon cahier attaché dans le dos que j'ai décidé plus tard de faire un métier pour aider les enfants comme moi, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Je me sentais vive d'esprit, et puis en même temps j'avais quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et plus tard, j'ai découvert que c'était l'orthophonie qui pouvait correspondre le mieux à ce que je cherchais étant enfant. Et je me suis rendu compte que cette difficulté que j'avais eue, et c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est que cette difficulté que j'avais eue étant enfant me servait, devenait un atout à plusieurs niveaux. D'abord, j'étais capable d'expliquer ça aux parents et de comprendre ce que vivait leur enfant. J'étais capable de bien leur expliquer, de bien leur faire comprendre et de leur montrer que c'est pas parce qu'on a eu des difficultés en lecture, en orthographe étant enfant, qu'on ne peut pas faire un métier plus tard. Je leur donnais de l'espoir. Mais en plus, ça m'a tellement obligée à travailler que j'ai développé énormément de capacités de travail. Donc, j'ai développé des atouts, j'allais dire, malgré moi, du fait de cette difficulté. Et ça m'a aussi donné comme une conduite dans ma vie qui était d'aider. Donc, je veux dire, oui, j'ai eu des moments difficiles, extrêmement. Je pourrais vous en raconter tellement. Mais en même temps, ça a été des graines peut-être pour des atouts dans ma vie d'adulte, dans ma vie professionnelle.
Ça prenait beaucoup de persévérance pour traverser ce chantier.
Ah oui. Ah oui,
je beaucoup. L'appelle le chantier parce qu'un chantier, c'est quelque chose qui est bouleversant, qui est à l'envers, dans lequel on n'est pas confortable. Je crois beaucoup que c'est une croyance à moi, puis j'aime cette croyance que dans la vie, des événements tristes ou douloureux qui nous arrivent, si on entre dedans pour en trouver le sens, peuvent nous servir de tremplin pour nous propulser. Mmh. Et c'est votre histoire à vous, justement, parce que on vous retrouve partout, Jacqueline. Vous avez occupé de nombreuses fonctions importantes au Québec aussi, au niveau des services de la santé, au niveau aussi en milieu scolaire, des postes de direction et j'en passe. Et c'est la communication et les relations interpersonnelles qui sont votre grande force alors que vous étiez un enfant en difficulté, dyslexique et blessé, énormément blessé. Et aujourd'hui, vous êtes une grande dame de la communication chez nous qu'on apprécie beaucoup. Alors, merci de votre présence. J'en suis touchée.
Mais vous savez, ça me fait très plaisir d'être ici. Puis de pouvoir effectivement, j'en ai peu parlé dans ma vie de cet épisode qui a duré de nombreuses années. Écoutez, j'ai découvert la lecture, je devais avoir 11 ans. Et j'ai réussi à me sortir au niveau de l'orthographe, je devais avoir 15 ans à peu près. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi longtemps. Mais maintenant, si vous saviez le goût que j'ai pour la lecture, c'est une passion chez moi. Donc rien n'est jamais perdu, c'est vraiment le message que j'ai envie de donner.
Ouais. Et parlons de communication justement, parce qu'on vous retrouve avec deux beaux livres, entre autres, un que vous êtes co-auteur, Les Saboteurs sont parmi nous, aux éditions LER, c'est comme ça qu'on dit.
Les éditions LER.
Les éditions LER, alors voilà, qui était paru, lui, celui-là, en 2009, et un tout récent, en 2014, chez Béliveau Éditeur, qui est le Dico pour des relations saines.
Oui.
Il y a plein de belles choses là-dedans. J'ai envie qu'on découvre en premier ce livre, Les Saboteurs, parce que je vous avoue, Jacqueline, que c'est quelque chose que je rencontre souvent chez les gens de mon entourage proche, immédiat, aussi chez mes propres clients, bien sûr, et le sabotage. Alors, vous le traitez à votre manière. Commencez à nous en parler un petit peu.
En fait, nous avons été abordés par un éditeur, ma co-auteure et moi. Elle faisait partie d'une grande entreprise et moi, j'avais dans ma clientèle des gens qui s'étaient fait saboter. C'est un phénomène qui est assez récent. Je veux dire par là que le mot sabotage est récent. Il date du 19e siècle. À l'époque, il y avait, vous savez, ce développement de l'industrie, cette ère industrielle qui se développait dans tous les pays au monde et les ouvriers n'avaient pas de vacances à l'époque, ça n'existait pas. Donc, pour avoir un peu de répit, mettaient leurs sabots dans les machines pour casser les machines, puisqu'ils étaient avec des sabots aux pieds. Et ça, d'où le mot sabotage, parce qu'ils avaient mis leurs sabots dans les machines pour se donner une pause, pour avoir un peu de répit à l'époque. Et après, il y a eu la guerre, les deux guerres, mais surtout la Deuxième Guerre mondiale, où on a parlé de sabotage quand il y avait des ponts qui étaient cassés, des usines de munitions qu'on faisait exploser. On parlait de sabotage. Donc, ça se rapportait à des faits, des éléments concret, j'allais dire. On ne parlait pas de personnes. Bien sûr, il pouvait y avoir des dommages collatéraux de personnes qui étaient tuées dans ce genre de sabotage, mais ça restait ciblé sur des structures, des objets, etc. Et puis en 2000, il y a eu un premier article. Ça se passe en Australie. Il y a des problèmes dans une banque et la personne qui fait l'étude, qui vient pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, parle de sabotage au sein de cette banque. Et c'est là où ça nous a attiré l'attention. En fait, le sabotage tel qu'on en parle là, c'est pas l'auto-sabotage. Et donc, ça sera bien qu'on puisse faire la nuance. J'aimerais vraiment que les gens fassent bien la différence. Et puis, quand on va tout à l'heure en parler plus longuement, eh bien, je vous expliquerai.
C'est très bien. Merveilleux. Nous prenons une petite pause et nous venons avec sabotage et auto-sabotage. Très intéressant, Jacqueline. Merci.
Venez déguster un excellent repas entre amis au bistrot Le Saint-André. 664 rue Saint-André à Laval. Spéciaux du midi, repas à la carte, bière et vin. Le bistrot Le Saint-André, on y mange bien et on s'y sent bien.
Vous désirez être à l'affût des tendances et de l'évolution du marché? Venez rencontrer plus de 2000 dirigeants au congrès Quartier des affaires du Québec, organisé par le Réseau des gens d'affaires du Québec, le RGAQ, qui aura lieu le 15 octobre prochain à Laval. Ce congrès regroupera plus de 100 exposants qualifiés et plus de 25 conférences et ateliers qui vous feront découvrir de nouvelles stratégies commerciales. Pour plus de renseignements, www.cqaq.ca.
Ici Alexandre Aubry, astrologue. La carte du ciel dévoile vos talents, vos compétences, vos qualités, vos défauts. Et avec le mouvement continu des planètes dans le ciel, il est possible de voir le passé, présent et futur. Consultations, conférences, ateliers et cours d'astrologie, contactez-moi à l'adresse suivante. alexandre@norja.net. Norja, ça s'écrit N-O-R-J-A.net. Ou encore sur Facebook, Alexandre Aubry, astrologue.
De retour à la voix du lâcher-prise avec notre invitée d'aujourd'hui, Madame Jacqueline Arbogast, qui est avec nous, co-auteure des Saboteurs sont parmi nous et le DICO pour des relations saines. Madame Arbogast est psychothérapeute, coach, conférencière, formatrice pour les auditeurs qui viennent de se joindre à nous. Juste avant la pause, nous avons entrepris ce premier livre, Les saboteurs sont parmi nous, et je vous demandais de nous en parler un petit peu. Qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a apporté vers ça? Et là, vous m'avez mentionné, entre autres, qu'il y a une différence entre le sabotage et l'auto-sabotage. Oui. J'ai très hâte de vous entendre.
L'auto-sabotage, c'est nous vis-à-vis de nous-mêmes. Nous nous auto-sabotons. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Auto-sabotage, c'est retourner vers nous-mêmes. C'est nous sommes nous-mêmes les auteurs de ce sabotage. Et c'est souvent à un niveau psychique, à un niveau de la personnalité, à un niveau de nos actes, mais commandés par notre état d'esprit.
Avez-vous des exemples pour nos auditeurs?
Par exemple, vous préparez une émission de radio, hein, par exemple, et vous, au moment de l'émission de radio, vous lancez des choses que vous ne voulez pas dire et qui sont inadéquates. Vous auto-sabotez votre témoignage. Ben voilà, c'est vous-même, il n'y a personne qui vous a obligé, mais quelque part, vous avez amené une difficulté que vous allez vivre vous-même, qu'il va falloir que vous assumiez, pour lequel peut-être vous allez vous culpabiliser, qui va vous faire perdre confiance, ça va faire tout un cercle vicieux. C'est extrêmement difficile.
Et qu'est-ce qui fait, selon vous, Jacqueline, que je pourrais plonger dans une expérience d'auto-sabotage pour me nuire finalement?
Parce que je ne me pense pas à la hauteur, parce que je n'ai pas confiance en moi, parce que je prouve de manière inconsciente que mes croyances qui disent que je ne vais pas réussir, ben je me le prouve à moi-même. Je veux dire, ça c'est des raisons parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup évidemment, mais les principales, ça tient à ça. Parce que j'ai un souci perfectionniste et comme je n'y arrive pas, eh bien je me sabote parce que c'est le tout ou rien. Alors oui, il y a plein de choses qui peuvent nourrir cet auto-sabotage. Par contre, le sabotage tel que j'en parle dans mon livre, c'est vraiment tout à fait autre chose. Ça peut arriver dans n'importe quel milieu, bien sûr, en famille, avec des amis, au travail. Vraiment, il n'y a pas de frontière. Mais, par contre, ça s'exprime de manière différente. C'est-à-dire que le sabotage dont je parle, c'est quelqu'un qui va saboter ce que vous faites.
Donc, c'est par pure intention.
Ah oui, la plupart du temps. La plupart du temps, je vais nuancer dans quelques minutes. Mais ça, c'est pas du harcèlement, c'est pas... non, il s'apprend à ce que vous faites. Et ça se voit beaucoup dans les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a des enjeux de projets à faire aboutir, des enjeux de poste, des enjeux de carrière, etc. Et qu'à l'ère de la mondialisation, les gens sont très vulnérables parce que s'ils ne donnent pas leur 300%, on n'est plus à 100%, on est à 300%, eh bien, ils ne réussissent pas. Donc, ça donne beaucoup, beaucoup de pression et en même temps d'enjeux. Et donc, vous assistez à ce sabotage, des personnes vont saboter d'autres personnes parce qu'elles les redoutent. Souvent, ça va être des experts dans leur matière et du coup, le saboteur se sent mal à l'aise ou se sent dans une concurrence, une rivalité, alors que nos futurs sabotés, entre guillemets, eux ne sont pas là-dedans. Eux, ils aiment ce qu'ils font, ils sont passionnés par leur métier, ils se donnent dedans de manière vraiment à fond, complète, et ce qui fait leur force quelque part. Ils n'ont pas cet enjeu politique, stratégique du saboteur. Et le saboteur, eh bien, il va essayer de les écarter ou en tout cas de minimiser leurs résultats, de s'approprier les capacités, les résultats, les enjeux, les clients, les contrats pour
réussir. Les honneurs.
Pardon ?
Les honneurs.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est ce qu'on décrit dans le livre, parce que la conséquence de tout ça, c'est que quand c'est répétitif, et il faut que ça soit répétitif, j'insiste là-dessus pour qu'on parle de sabotage, si c'est une fois dans sa vie que quelqu'un nous fait quelque chose, je veux dire, ok, ça peut arriver, on est des êtres humains, on s'est pris les pieds dans le tapis, mais c'est correct, je veux dire, on s'explique. Mais quand c'est répétitif, là, ça devient du sabotage. La personne qui subit ce sabotage, donc le saboté, eh bien, à bout d'un moment, va douter d'elle, va s'interroger sur ses capacités professionnelles ou ses capacités dans le groupe d'amis dans lequel elle fait partie ou ses capacités sportives ou que sais-je. Elle va penser qu'elle n'est pas à la hauteur, que son travail n'est pas bon, qu'elle n'est pas faite pour ce travail ou pour ce sport ou pour cette fonction. Et là, elle va commencer à perdre pied alors que c'était un expert ou une experte dans sa matière. Et du coup, eh bien, ça va enclencher, je dirais, un cercle vicieux négatif. Donc, parce qu'elle a moins confiance, elle réussit moins bien. Comme elle réussit moins bien, elle a moins confiance et on entre dans ce cercle vicieux.
Et j'imagine, pardon, que ça peut aller parfois jusqu'à la dépression.
Oui.
Oui.
Moi, c'est comme ça que j'ai été sensibilisée à ce problème. C'est que dans ma clientèle, j'ai eu des gens qui étaient des sabotés. À l'époque, je pouvais pas mettre le mot saboter, mais avec le recul, quand j'ai repris les dossiers, ben, c'était ça. Il y avait quelqu'un dans leur entourage, et ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être n'importe qui. Un homme, une femme, il n'y a pas, c'est pas réservé un genre, féminin ou masculin, c'est pas réservé un poste. Il y a des patrons qui sabotent leurs employés, il y a des employés qui sabotent les patrons. C'est pas réservé à une profession. J'ai interviewé des gens en santé, en finance, en scolarité, en entreprise globale, générale, dans tous les... On le renvoie partout. Il n'y a qu'une entreprise dans toutes celles que j'ai interviewées où il n'y avait pas de sabotage, elle était très spécifique. Donc, ça se voit partout.
Est-ce que la personne sabotée est consciente qu'elle est sabotée? J'imagine qu'au début, non.
Non, au début, non. Non, non, non. Il faut vraiment que ça atteigne des niveaux très importants ou qu'une personne lui en fasse prendre conscience. Ça peut être un collègue, ça peut être un conjoint, une conjointe qui dit « mais ça n'a pas d'allure ce que tu vis là, c'est pas normal ». Ou moi, parce que ça m'est arrivé de faire prendre conscience à mes clients « mais ce que vous vivez là, ça marche pas, c'est pas adéquat, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ». Souvent la personne ne s'en rend pas compte elle-même. Il faut vraiment que, ou alors qu'elle était loin dans le mal-être, pour se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Et comme c'est très difficile à prouver en plus, parce que il faut savoir que le saboté est quelqu'un d'intelligent et qui sait se faire apprécier de son entourage. Donc, si vous vous plaignez de Monsieur X ou Madame Y, les gens vont dire, mais tu as une dent contre elle, mais non, ça n'a rien à voir, mais pourquoi tu es toujours après, c'est toi qui as le problème, tu vois du mal partout. Donc, ce n'est pas si évident que ça à démontrer. Il faut s'entourer de personnes en qui on a confiance, leur demander d'être témoin, leur demander d'être présent. Il faut prendre des notes, il faut garder le moindre échange, tous les courriels, et vous entourer de personnes. Quand vous êtes avec la personne qui vous sabote, tentez toujours d'avoir quelqu'un avec vous pour qu'il y ait toujours un témoin.
Est-ce qu'il y a des profils types qui sont à risque de vivre le sabotage,
oui,
d'être désaboté finalement, oui, plus que d'autres?
Oui, oui, oui. Souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas assez d'affirmation d'elles. N'ont pas le côté stratégique des saboteurs. Pensent que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et donc n'imagine pas un instant que des gens puissent avoir l'esprit tordu, puisqu'eux ne l'ont pas. Et ce sont des gens qui sont plus voués à leur travail qu'à autre chose. Donc, ils ne sont pas dans ce raisonnement, cette vision, ce plan stratégique que peuvent l'être les sabotés. Et ils n'osent pas mettre leurs pieds à terre. C'est ça aussi. Donc, mettre les limites. Alors, ça ouvre une grande porte à nos saboteurs. Ils en profitent. Qu'est-ce que vous voulez? La porte est ouverte.
Ils n'osent pas porter leurs sabots.
Mm-hmm. Voilà.
Alors, il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe à leur place. C'est
oui.
Ça? Et comment on s'en sort? Quelqu'un qui vous arrive là, puis qui vit ça, ces mécanismes-là de sabotage et de destruction intérieure, finalement.
Oui, oui. En fait, dans le livre, on fait trois sortes de possibilités. Les solutions à court terme, rapides, aller voir l'ombudsman, prendre des gens à témoin, etc. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, face à un danger, il a plusieurs solutions. Soit il fuit, parce que des fois, c'est intéressant, courage, fuyons, c'est la bonne solution, surtout si c'est votre patron et que vous ne pouvez rien contre lui, fuyez, ne restez pas là, c'est du bon sens, c'est pas de la lâcheté, loin de là. Il y en a d'autres qui vont se positionner, marquer leur territoire, puis il y en a d'autres qui vont attaquer. Ça va vraiment être les trois solutions à ce problème. Souvent, les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils n'en sont pas rendus là, ni à se positionner, ni à attaquer, ni à fuir. Ils sont dans le
mal-être.
Le mal-être le plus total, et ils cherchent des solutions. Mais il y a, bon, je vous ai parlé de l'ombudsman, je vous ai parlé de, on va utiliser les programmes d'aide aux employés, bien sûr. On va parler aux ressources humaines. On va demander de l'aide à son entourage, soit professionnel, soit familial, pour avoir du soutien. Et puis, effectivement, vous adressez à des spécialistes, des thérapeutes, des coachs, des gens qui s'y connaissent et qui pourront aider quand on arrive, parce qu'il y a la dépression, mais il peut y avoir aussi le burn-out, il peut y avoir aussi les symptômes physiques. Vous avez des gens qui vont commencer à somatiser, donc créer... somatiser de manière psychique, crise d'angoisse.
Pour se sortir d'un problème, finalement, il y a un malaise, une maladie, oui, qui va apparaître pour se, oui, donner le droit, entre guillemets, de quitter,
oui,
quitter l'enfer.
Oui, hein? Qui vont devenir malades, qui vont faire des ulcères, qui vont faire des angines, ne pouvant plus parler, qui vont s'arranger d'une manière ou d'une autre pour se retirer de ce climat malsain et de cette confrontation continuelle avec le saboteur.
Et que c'est acceptable pour eux parce qu'ils ne sont pas capables de prendre position, ils ne sont pas capables,
oui,
de s'affirmer. Le,
oui,
problème n'est pas réglé.
Oui. C'est pour ça que c'est là où les spécialistes en relation d'aide interviennent, bien sûr.
Oui. Très intéressant, très intéressant. Et dans ces situations-là, est-ce que ces personnes-là s'en sortent? Est-ce que la plupart sont obligées de quitter l'emploi aussi?
Ça dépend vraiment des contextes, parce que, bon, quand je vous dis, quand c'est un patron, des fois, c'est pas évident. Donc, il vaut mieux s'en aller. Mais des fois, dans les grandes entreprises, il suffit que vous changiez de département pour changer de patron. Donc, ça marche. Puis, vous savez, quand c'est un employé, puis que le patron se fait saboter, ben, le patron peut se séparer de l'employé. Il reste là, le patron, mais il se sépare de son employé. Quand c'est dans un groupe, par exemple, des collègues entre eux, bon, ben, si vous avez réussi à vous faire comme une sorte de clan de collègues qui vont vous soutenir, vous aider, ben, soit il y a une mise au pas du saboteur, soit on lui demande de partir. Il y a vraiment des choses qui peuvent être mises en place. Et puis, il y a une chose qui est très étonnante aussi, souvent que l'on oublie, c'est que si vous savez confronter le saboteur, vous pouvez en faire quelqu'un qui va devenir un atout pour vous. Parce que n'oubliez pas que les saboteurs sont des gens intelligents, qui savent se faire apprécier, qui sont stratèges, donc ils ont des atouts. Donc, j'ai connu une entreprise où un des vendeurs avait été nommé à un poste qui ne lui convenait pas du tout, se sentant mal à l'aise, se sentant pas à la hauteur, se sentant, pas bien dans sa fonction. Il avait commencé à saboter son entourage parce que, pour se rehausser, en fait. Hein, à un moment donné, on a fait appel à un consultant extérieur dans cette entreprise. Il s'est rendu compte qu'il avait affaire à un saboteur, mais que ce saboteur est un excellent vendeur et quelqu'un qui avait énormément de positions, de clientèle, d'atouts, de connaissances, d'expérience. Donc, il a été chercher ses atouts, il a été chercher ses qualités, et ils ont fait tout un travail ensemble pendant 9 mois pour que ça se passe bien, qu'il garde son poste, mais qu'il mette d'autres réactions en place, d'autres attitudes, et qu'il en fasse bénéficier, au contraire, toute son équipe, plutôt que se les mettre à dos, parce qu'il était épouvantable.
Nous sommes déjà rendus à une autre petite pause, et je retiens que parfois, c'est bon de quitter le patron lorsque le patron fait des problèmes, oui, veut vous saboter.
Oui.
Alors voilà, de retour dans quelques instants.
Voici nos informations. Sans une intervention structurante de Québec et d'Ottawa, la situation financière des événements majeurs internationaux comme les grands festivals va continuer de se détériorer, ce qui pourrait entraîner la disparition de certains d'entre eux. L'avertissement est lancé par Martin Roy, président-directeur général du REMI, le regroupement des événements majeurs internationaux. Les élections fédérales, maintenant, la campagne reprend. Aujourd'hui, on sait que les chefs des principaux partis ont pris une journée de congé hier. Ils sont tous sur le terrain aujourd'hui. En visite à Cuba, le pape François célébrera aujourd'hui une grande messe sur la place de la Révolution à La Havane. Il est accueilli en héros à Cuba pour avoir contribué à rétablir les relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Et les Grecs retournent aux urnes aujourd'hui pour élire leur gouvernement. Ils sont appelés à voter pour une troisième fois cette année après les législatives du 25 janvier et le référendum tenu cet été. Le parti Syriza du premier ministre sortant Alexis Tsipras bénéficie d'une très légère avance dans les sondages. Louis Cloutier, La Presse canadienne.
Vous écoutez Radio Mieux-Être, CJLV AM 1570.
De retour à la voix du lâcher-prise avec notre invitée d'aujourd'hui, Jacqueline Arbogast, et nous discutons de relations interpersonnelles, de communication. Madame Arbogast, qui est une spécialiste justement dans ces domaines, nous entretient aujourd'hui, et nous avons aussi un second livre. Le premier, c'est « Les saboteurs sont parmi nous ». Nous venons d'en parler il y a quelques minutes. Et le second, le DICO pour des relations saines. Qu'est-ce que c'est le DICO? Et bien, deuxième question qui va arriver en arrière, qu'est-ce qu'on peut appeler une relation saine?
OK. Alors, le DICO, c'est le dictionnaire, parce que c'est un dictionnaire. Je n'aime pas du tout le terme DICO, ça j'avoue tout de suite que ce n'est pas moi qui l'ai choisi. On a des fois des limites dans nos possibilités par rapport aux éditeurs, mais c'est un dictionnaire. Et relations saines, pourquoi? Parce que dans ma clientèle, j'avais beaucoup de personnes qui venaient parce qu'elles avaient des problèmes avec des collègues, des amis, des conjoints, des enfants, etc., au niveau des relations. Donc, j'ai eu envie de donner des outils aux gens qui puissent utiliser facilement, de manière pratico-pratique, dans leur vie de tous les jours. Et pour moi, une relation saine, c'est pas une relation parfaite. Ça n'existe pas. Ça n'est pas dans notre nature d'être humain. On a des émotions, on a nos croyances, on a nos critères, on a nos expériences de vie, nos blessures, qui font que un moment ou un autre, il pourra y avoir un accroc, il pourra y avoir une friction avec quelqu'un, il pourra y avoir un malentendu. Ça, ça fait partie de la vie. Là où ça devient une relation saine, c'est ce qu'on en fait, comment on le vit et comment on le résout. C'est à ce niveau-là que ça devient sain. Si j'en fais quelque chose qui va s'envenimer, qui va poursuivre une escalade, qui va grossir comme une boule de neige qui grossit au fur et à mesure, pour moi, c'est pas très sain. Si par contre, je vais voir la personne, quitte à avoir quelques instants, un petit peu d'émotion, se parler un peu fort, mais qu'on va aller vers la résolution du problème, qu'on va aller vers une explication, qu'on va aller vers une solution gagnante de part et d'autre, pour moi c'est sain, parce que on est orienté solution, parce qu'on cherche à dénouer ce problème, à crever l'abcès, pour quelque chose qui soit bon pour tous les deux. Et c'est ça où je parle de relation saine.
Donc une relation qui est constructive.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Est-ce que c'est simple de entrer dans la relation, aller vers l'autre, peut-être se mettre à risque d'être jugé, d'être rejeté, bon, peu importe, une situation qui est délicate. Est-ce que c'est aisé ou est-ce qu'on doit se dépasser pour choisir de prendre le taureau par les cornes, comme on dit par chez nous?
En fait, je veux dire, chaque situation est unique et va dépendre du contexte, parce que c'est vrai que si c'est un ami avec qui vous avez eu une friction, en règle générale, si vous allez le voir, bon, peut-être que sur la première fois, il va bouder ou va vous dire non, j'ai pas envie, ou pas maintenant, ou je veux pas te parler, chose qu'on entend souvent. Mais comme vous savez que c'est un ami, vous allez réitérer, vous allez laisser un message avec tout ce qu'on a comme possibilité maintenant entre les textos, les Gmail et tout ce qu'on veut. Il y a moyen de rappeler, puis petit à petit, ça va se faire. Il va y avoir le temps qui va jouer si vous laissez un peu le temps à l'émotion de se calmer. Puis il y a des personnes qui, effectivement, ne veulent plus s'enfermer vraiment dans « non, je ne veux plus te parler, je ne veux plus avoir de contact avec toi », nous rejettent. Et là, je pense que si vraiment on se heurte à un mur, parce qu'il y a ce qu'on peut faire nous, mais on a les limites, hein, et puis ce que l'autre nous oppose, c'est de nous faire un travail sur « ok, qu'est-ce que j'apprends de cette relation? Qu'est-ce que ça m'apporte, cette expérience? Comment je peux en tirer un apprentissage pour moi, pour mes autres relations? Et qu'est-ce que je peux faire pour lâcher prise? » On est dans le bien-être et le lâcher prise. Et c'est là où c'est important de savoir lâcher prise. Il y a notre part à nous, mais il y a aussi la part à de l'autre. Dans une relation, il y a 50% de part de chacun. Donc si vous avez fait tout ce qu'il fallait, quitte à sortir de votre zone de confort, à aller vraiment faire amende honorable, ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde, hein, il faut être honnête, et qu'en face, vous avez retrouvé un mur, il y a une part qui ne vous appartient pas. Et là, c'est bon de lâcher prise.
Ah oui. Donc, de trouver qu'est-ce que cette personne-là dans ma vie me oui. fait vivre
oui.
en termes d'émotion. Oui. Elle est un outil, dans le fond.
Oui. Oui.
Moi aussi, peut-être.
Oui.
On est gagnant-gagnant.
Oui, j'ai un bel exemple comme ça que j'ai vécu. À l'époque, je travaillais comme orthophoniste et il se trouve que j'ai une de mes collègues avec laquelle j'avais une très, très belle relation d'amitié qui, pour des raisons d'événements de vie, on va dire, m'a rejetée, m'a mis de côté. Et j'en ai énormément souffert. Ça a été vraiment un deuil à faire. Qui était difficile et douloureux, d'autant plus qu'on se côtoyait tous les jours, donc c'était pas évident. Puis un jour, je commençais mes études de thérapeute, et je suis allée, et on a appris une nouvelle technique, et là, je me suis rendu compte, on devait trouver des mentors, qu'elle faisait partie de mes mentors. Alors j'ai vraiment été très très étonnée, puisque on était dans le conflit, elle faisait partie de mes mentors. Je comprenais pas. Puis en fait, le fait qu'elle me fasse vivre cette situation, ça m'a permis de réaliser des choses sur moi-même, sur ce qu'étaient mes valeurs, ce qui était important pour moi. Et là, j'ai lâché prise.
Parce que la vie apportait un cadeau, d'une
oui.
autre façon. Hein.
Oui, quelque part, j'avais quelque chose à apprendre de cette situation. Mmh. Oui.
Les limites sont extensibles.
Ah, tout à fait.
Oui.
Tout à fait.
On en fait ce qu'on veut aussi.
Oui, oui.
C'est ça. Jacqueline, vous dites que c'est un dictionnaire. Alors, comment les gens peuvent l'utiliser?
Non, de A à Z, de Z à A, et dans n'importe quel ordre, comme un vrai dictionnaire. Il y a des définitions qui sont uniques, comme le U, il est unique, et d'autres qui en ont plusieurs, comme le C, parce qu'il peut y avoir confiance, il peut y avoir couple, il peut y avoir plusieurs choses hein, dans une même lettre. Et vous lisez en fonction de vos besoins, de vos envies, de ce qui vous inspire. Vous l'ouvrez au hasard, vous tombez sur quelque chose et vous le lisez. Et en plus, je précise, c'est un dico où il n'y a pratiquement que des choses constructives, positives. C'est-à-dire que je me suis pas attardée à séparation, conflit, divorce, mensonge, infidélité. Non, c'est pas du tout ce que j'avais envie. Il y a tellement déjà de livres sur les tablettes qui en parlent que je voulais pas en rajouter. Par contre, comme je suis orientée solution dans mon approche thérapeutique, j'ai voulu donner effectivement des outils et pas des définitions, etc. Donc ce sont surtout des mots porteurs, constructifs, qui permettent aux personnes d'avoir des témoignages et des outils qui seront pertinents pour eux.
Et qui nous donnent des clés et aussi oui. nourrissent une réflexion intérieure. Oui. Bon, je viens d'ouvrir spontanément, pour le bénéfice des auditeurs, le livre à la page 125. Et ce que je lis, c'est « Maintenant, il faut savoir que pour développer une relation, la garder, l'enrichir, il est nécessaire de respecter certaines règles. Une des règles de base est celle des trois R. » Et là, j'ai adoré quand j'ai vu ça. « Le respect de soi, le respect de l'autre et la responsabilité. »
Oui, j'aime beaucoup cette règle. J'aime vraiment beaucoup cette règle. Parce que souvent, les gens, soit sont trop sauveurs, on va dire, et ne se respectent pas, et donc respectent les besoins de l'autre, mais éteignent ou tassent les leurs, et je trouve pas ça ni bon ni responsable. Ou alors, se respectent trop, et puis j'ai envie d'écouter ma musique à 11h du soir, tant pis si je réveille le bébé des voisins, tant pis si j'empêche le monsieur qui travaille de jour, de nuit, et qui a besoin de se reposer, peu importe. Donc, le respect de l'autre est important dans ce cas-là. Donc, je trouve que ce trio, avec le terme responsabilité qui cadre dans quelle mesure on doit respecter l'autre de manière responsable, ça dit tout. C'est vraiment très simple et en même temps très fort.
Oui, puis il y a un danger parce que lorsqu'on manque de respect envers soi et tout à coup on s'en aperçoit, bon, pour des raisons X, oui. Y, Z qui arrivent, il y a un danger parfois le balancier part dans l'autre sens.
Oui,
et
tout
là, c'est
à fait.
Moi, me, myself and I, là, c'est moi, moi, parce qu'on veut qu'on me reprenne.
Je, mais moi, mon ma.
Oui, c'est ça. Et c'est pas nécessairement conscient, parfois oui aussi. Et là, il y a encore un déséquilibre qui est présent. Donc, le balancier tend à revenir à la voie du milieu, mais est toujours en mouvement.
Hein. Oui, 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 oui. Puis, d'une personne à l'autre, le respect va pas se montrer de la même manière. Hein. Il y a plein de formes de respect différentes. Donc, c'est de s'adapter. Et c'est en ça qu'on est responsable. Donc, souvent, je l'explique dans les couples. Respect de soi, d'accord, mais respect de l'autre et responsabilité. Est-ce que c'était vraiment responsable ce que vous avez dit là, ou ce que vous avez fait là, ou ce que vous n'avez pas fait? Donc,
oui, parce qu'en fait, on est responsable de nos pensées, on est responsable de nos choix, de nos intentions, de nos mots et tout ça.
Mm-hmm. C'est notre manière d'être au monde.
Oui, oui, c'est intéressant. À part ça, c'est facile de dire c'est la faute de l'autre, toujours la faute de l'autre, mais on a quand même une part de responsabilité.
C'est clair.
C'est un mot que j'aime beaucoup, ça, la responsabilité et le respect. J'aime beaucoup les trois R. Donc, on le répète, respect de soi, respect de l'autre.
Et responsabilité.
Et responsabilité. Bon, alors, c'est dans le beau livre de Jacqueline Arbogast, le DICO pour des relations saines, publié chez Béliveau Éditeur, c'est ça. Moi, je vous laisserai pas partir, c'est sûr, Jacqueline, sans que vous m'ayez glissé un mot sur la procrastination. On veut bien comprendre, au moins, les grandes lignes, qu'est-ce qui fait qu'une personne est affectée, j'ai quasiment envie de dire, de cette charge, de cette lourdeur, parce que c'est pas évident pour la personne elle-même qui veut s'en sortir, et comment, quels sont les outils, comment cette personne-là peut s'en sortir?
En fait, il faut savoir que la personne qui procrastine ne procrastine pas dans tous les domaines. Pas du tout, du tout, du tout. Elle va avoir certaines choses dans sa vie où elle aura du mal à accomplir, à faire ce qu'on lui demande, à arriver au bout de ses objectifs ou de ses projets. Mais dans des tas d'autres domaines, elle réussit bien. Et des fois même, elle est même très, comment gérer, presque trop proactive dans les autres domaines, comme pour compenser. Hein. Donc, c'est pas une, une généralité. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'envahit pas tous vos domaines
de vie.
Tous les
domaines, tous les aspects de la vie.
Voilà, déjà. Donc, c'est de prendre bien conscience de ça, qu'il y a des tas de choses qu'on sait faire et qu'on sait bien faire. C'est important parce que la plupart du temps, les gens qui procrastinent ont une faible confiance en eux et une faible estime d'eux. Conclusion, ils se mettent soit dans le perfectionnisme qui fait qu'ils veulent tout soit parfait, et si c'est pas parfait, ils ne le font pas, puisqu'ils n'admettent que le parfait, ou sachant qu'ils n'arriveront pas à faire quelque chose de parfait, ils ne le font pas du tout. Donc, ils tournent en rond, là, parce que, voilà. Et ils ont tellement peur, en plus, de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir faire, de faire des bêtises, de faire des erreurs, que, du coup, eh bien, ils n'entament pas. Ils reculent, ils s'y mettent au dernier moment, ils cherchent des excuses, ils essayent de le déléguer à quelqu'un d'autre quand ils peuvent. Ils retardent, ils avancent, mais à micro-pas, là où ils pourraient aller beaucoup plus vite. Et il faut vraiment comprendre, pour savoir comment s'en sortir, il faut vraiment comprendre cet état d'esprit. Vraiment.
C'est très intéressant. La suite après la pause.
Ici Nicolas Tétrault, fondateur de Royal Lepage du quartier, expert en immobilier résidentiel et commercial pour tout le Québec. Si vous avez des besoins en immobilier résidentiel, vous voulez vendre votre maison, votre duplex, votre triplex, déménager, vous pensez également investir en immobilier commercial, vous achetez un fonds de commerce, préparez votre fonds de pension, n'hésitez pas à m'appeler et ce 7 jours sur 7 au 514-419-9888. Je vous remercie.
L'association La Vie, l'association pour venir en aide aux enfants des pays en voie de développement, un organisme à but non lucratif, fête ses 10 ans. Pour souligner cet événement, un concert bénéfice chanté pour la vie, mettant en vedette le musicien de l'âme Bradfield, sera présenté le jeudi 8 octobre à la petite église de Saint-Eustache. Les billets sont disponibles dès maintenant sur le site www.associationlavie.com ou pour plus de détails, composez le 418-882-0806. Merci de nous aider à faire une différence dans la vie de ces jeunes. Le réseau Vox Populi vous convie à une conférence sur les preuves scientifiques d'une vie après la vie, un regard fascinant sur les expériences de mort provisoire, les NDE. Qu'arrive-t-il lorsque nous mourons? Existe-t-il une vie après la mort? Après avoir répertorié et analysé des milliers de cas, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, médecin, auteur et chercheur de réputation internationale, se prononce. Spécialiste français des expériences de mort imminente, le docteur Charbonnier brossera un tableau complet de ce que nous devrions tous savoir, y compris les sceptiques, sur la vie après la mort. Des NDE, Near Death Experience, à la médiumnité, en passant par les sorties hors du corps, il présente en détail des phénomènes étudiés par la science qui prouvent que la vie se poursuit après notre mort physique. Une présentation à la base scientifique, enrichie de témoignages qui ébranlera les certitudes de plusieurs sur l'au-delà. En tournée au Québec, venez l'entendre à Saint-Sauveur, Trois-Rivières, Québec, Drummondville et Montréal, du 21 au 25 septembre prochain. Pour toute information, composez le 514-425-4725 ou sans frais, le 1-877-425-4725. Réservez dès maintenant votre billet sur voxpopuli.tv.
Nous sommes de retour à notre émission La Voix du lâcher-prise avec Jacqueline Arbogas, qui est auteure, coach, thérapeute, formatrice, conférencière, une dame soleil, une belle dame de cœur, et nous étions juste avant la pause à parler de la procrastination.
Oui, oui.
On a décrit brièvement, quelles étaient les souffrances, un petit peu dans quel domaine, là, les gens, bon. Mais comment une personne, premièrement, faut qu'elle devienne consciente qu'elle procrastine?
Bien sûr. Et ça, c'est effectivement la base, parce que il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte que c'est un pattern, parce que c'est pas parce qu'une fois vous réussissez pas à faire quelque chose que vous procrastinez. Ça arrive à tout à chacun, une fois dans sa vie, d'être moins à l'aise avec quelque chose ou de pas avoir envie ou que sais-je. C'est quand c'est répétitif que là on peut parler de procrastination et là ça devient un pattern. Donc là il y a vraiment besoin d'en prendre conscience. Donc tant que la personne n'en a pas conscience, elle n'en a pas conscience. Donc Ça veut bien dire ce que ça veut dire, elle ne peut pas le transformer. À partir du moment où elle le réalise, c'est de voir, ça touche quoi précisément? Parce que comme je l'ai dit auparavant, ça ne touche pas tout. Donc qu'est-ce qui provoque chez elle ce manque d'estime, ou cette peur, ou cette anxiété, ou ce manque de courage? Appelez ça comme vous voulez.
Donc dans quel espace de sa vie elle procrastine?
Oui, tout à fait. D'aller chercher, si je ne procrastinais pas, comment je ferais? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas ce problème? Qu'est-ce que je ferais? Déjà pour visualiser, la visualisation est importante dans ces cas-là, de qu'est-ce que je ferais? Ça serait quoi les étapes? Par qui je me ferais aider? Comment je me ferais aider? Est-ce que j'ai besoin d'aide ou pas? Est-ce que je connais suffisamment? Etc. Puis ensuite, aller voir, ok, je sais un peu mon plan de match pour le futur, ce que j'ai envie de faire. Maintenant, allons voir ce qui me bloque. Est-ce que je veux que ça soit parfait? Est-ce que je me sens pas à la hauteur? Est-ce qu'il me manque des éléments? Bon, si je veux que ça soit parfait, quand j'en prends conscience, c'est d'aller voir effectivement ce qu'on attend exactement de moi, puis d'en parler avec la personne responsable. Si c'est moi-même la personne responsable, c'est de me voir dans d'autres situations, chercher des situations où similaires, où j'ai réussi, pour trouver des exemples de stratégies que j'ai mis en place. On dit souvent qu'il faut au moins trouver 3 exemples similaires et faire la synthèse des 3. Qu'est-ce que j'ai mis en place dans ces exemples-là? Quelle stratégie j'ai mis en place et pour réussir, de façon à l'appliquer là où j'ai du mal. D'accord? Il y a aussi le fait de, ok, j'ai peur, par exemple, j'ai peur de pas y arriver à temps. Conclusion? Plutôt que m'y mettre, je m'y mets pas. Ce qui est vraiment se tirer dans le pied. Comme disait Jacques Salomé, ça lui vient de lui, puis je le remercie de me l'avoir donné, c'est derrière toute peur, il y a désir. Donc, si j'ai peur de pas avoir assez de temps et de pas rendre ma thèse ou mon projet à temps, c'est que j'ai le désir de le rendre à temps. D'accord? C'est mon désir qui est en dessous. Et là, comment je peux faire pour le rendre à temps? Quels sont les outils, quels sont les moyens, quelles sont les personnes dont j'ai besoin pour le rendre à temps? Quel planning je dois mettre en place? Comment je dois m'y prendre? Puis il y en a d'autres, c'est parce qu'ils ont besoin de stress. Ok, mais un stress constructif, pas un stress qui m'anéantit. Alors, il y en a qui vont se mettre plus tard dans leurs objectifs, puis d'autres plus tôt. Ça dépend vraiment des personnalités. Mais si c'est un stress qui me paralyse, j'ai là à toucher mon bouton de stress. Comment je peux calmer mon stress pour en avoir toujours, pour me donner cette
drive,
adrénaline.
Oui, c'est ça.
Hein. Mais en même temps, pour pas que ça me submerge, c'est la différence entre le tract avant d'entrer en scène et le stress qui vous fait oublier tout votre texte.
Alors, merci beaucoup. C'est un sujet qui est passionnant aussi, la procrastination.
Puis on peut en dire beaucoup encore.
Oui, oui, parce que dans quelques minutes comme ça, vous avez cerné quand même, et je suis certaine dans vos mots aider déjà des auditeurs qui sont à l'écoute. Bon, alors, Jacqueline, vous avez plusieurs services que vous offrez, puis j'aimerais ça que vous en parliez.
Oh, avec plaisir.
Pour aider les gens, parce que il n'y en a pas assez encore d'outils qu'on peut offrir devant la souffrance humaine. Oui. Alors, vous en faites partie. Vous avez un beau site web qui est le jarbogast.com. Et là, il y a full d'informations, mais justement, je vous laisse nous en parler.
En fait, je dirais que j'ai plusieurs casquettes, mes deux grandes en tout cas. Une où je suis plus dans la psychothérapie, la relation d'aide. Je reçois des gens en psychothérapie, en thérapie conjugale et familiale, en coaching, plus coaching de vie. Mais il m'arrive aussi de faire du coaching de travail. Et ça, c'est dans mon bureau. Et je suis les gens donc dans leurs difficultés. Puis à côté de ça, je fais effectivement des conférences, des ateliers, des formations. Et évidemment, ça touche tout ce qui touche les relations humaines, tout ce qui touche la communication interpersonnelle. Donc, je peux vous faire des conférences sur l'art de communiquer ou sur l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, sur comment gérer les conflits, comment gérer les objections. Je peux vous faire ça sur comment écouter aussi, c'est très important de savoir écouter de façon à ce que ça soit constructif. Et puis depuis quelque temps, je développe aussi, parce que je me suis rendu compte que j'en avais de plus en plus dans les demandes que j'avais, tout ce qui touche la retraite. J'ai même un blog en construction qui va bientôt être sur le marché, j'allais dire, qui s'appelle Retraite Trait d'Union Avenir, en un mot, parce que au jour d'aujourd'hui, les gens prennent leur retraite, disons, aux alentours de 65 ans, plus ou moins quelques années, et ils vont avoir encore 20 à 25 ans de vie en moyenne à vivre, donc c'est vraiment une carrière. Et c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas des services de ressources humaines, parce que tout le monde ne travaille pas dans une grande entreprise, les travailleurs autonomes, les gens qui ont des entreprises comme des restaurants ou des magasins ou autres, ou les firmes d'avocats, les firmes de notaires, les firmes de comptables, n'ont pas forcément ces ressources. J'offre des suivis, des formations pour préparer sa retraite, parce que psychologiquement, bon, on a des tas d'outils maintenant au niveau financier, mais psychologiquement, il n'y a pas grand-chose qui est donné, et là, ça vaut la peine vraiment de s'y pencher. Et ce qui va avec, ben, c'est le deuil, parce que quand on parle de deuil, on ne parle pas seulement de la personne qui est décédée et qui nous a quittés. On parle du deuil de son identité professionnelle. On parle du deuil de son quartier où on a vécu, parce qu'on ne garde pas sa grande maison et qu'on va dans un appartement. On parle de deuil au niveau des objets dont on est obligé de se défaire. On parle du deuil des groupes de réseaux dans lesquels on faisait partie. On n'est plus, je ne sais pas, on n'est plus ingénieur dans la firme XYZ. On ne peut plus faire partie du réseau des gens qui y travaillent. Donc, il y a beaucoup de deuil à faire. Donc pour moi, ce sont deux avenues qui demandent à être explorées, exploitées, et c'est là-dedans aussi dans lequel j'offre des formations et des conférences.
Et effectivement, c'est une grande table qui s'ouvre devant nous, oui, avec la retraite,
oui,
parce que c'est un monde à découvrir, c'est un, oui, monde à construire.
Oui, tout à fait. Construire. Parce qu'avant, les retraites, c'était 5 ans, 10 ans, parce que les gens mouraient plus tôt, tout simplement. Donc, il n'y avait pas... les assurances se faisaient des points en or à l'époque, parce que les gens... les assurances vie, j'entends. Mm-hmm. Les gens mouraient très vite après leur retraite, ils en bénéficiaient très peu. Là, il faut penser que nous avons 20, 25, 30 ans, voire devant nous. Et comment en faire des années extraordinaires, des années riches, des années pleines, comment se maintenir en santé, comment prévoir les aléas qui peuvent arriver de façon à être préparé et prendre ces bons tournants, comment apprendre à lâcher prise sur certaines choses. Donc c'est tout ça.
Mm-hmm.
C'est riche.
Et on a besoin de se donner du respect pour soi. Là. Ça,
ah,
c'est le
clair.
Temps au début de la retraite, si on ne l'a pas fait, hein,
oui,
de s'arrêter et de se poser la question, est-ce que je me respecte? Quelles sont mes limites? Et,
oui,
et tout ça. Et c'est, oui, comme vous l'avez dit tantôt, c'est toujours plus facile de respecter l'autre que soi-même.
Souvent, oui.
Et dans un avenir plus proche, quels sont pour vous les rêves, les objectifs?
Ah, bah écoutez, comme je vous ai dit, là, j'ai deux blogs en construction. Je veux vraiment arriver à utiliser cet outil, le web, qui est extraordinaire pour moi. Je veux faire des webinaires, je veux offrir des formations sur le web que les gens pourront voir de chez eux, pas toujours se déplacer. Ils n'ont pas toujours ni le temps ni les moyens de chez eux, c'est possible. Et d'amener, j'ai déjà des infolettes qui apparaissent une fois par mois. Je vais avoir ces deux blogs qui sont en construction. Et puis, je vais avoir vraiment tous ces outils que les gens pourront e-book, capsules vidéo, webinaires, c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de me lancer, et c'est pour lequel je travaille actuellement, de façon à ce que j'ai envie de transmettre mes outils, et je veux que ça soit accessible au plus grand nombre de personnes, vraiment. Donc c'est un de mes grands projets, un de mes grands rêves, de pouvoir toucher un maximum de personnes, allez, 10 millions de personnes, pourquoi pas 100 millions.
Ah oui, ben il faut garder l'esprit ouvert, hein,
tout à fait.
C'est super important. Et si je vous demandais brièvement, parce qu'on a presque complété, quel est votre plus grand lâcher-prise que vous auriez le goût de partager aux auditeurs que vous avez rencontrés dans votre vie? On a 2 minutes pour en parler.
En fait, c'est par rapport aux enfants. J'ai une très, très belle relation avec mes enfants. Je suis privilégiée, j'avoue. Ça ne m'a pas empêchée d'avoir des lâcher-prise à faire, parce que entre ce que je désirais pour eux, ce que j'avais imaginé sur eux, ce que je voyais d'eux et ce que leurs difficultés et tout, puis à un moment donné, je me suis dit non, c'est leur vie, ça leur appartient. Je les ai supporter, guider dans la vie, mais maintenant ça leur appartient, lâche prise. Et je pense que j'ai assez bien réussi, puisque même s'il y a eu des périodes où ils se sont éloignés de moi pour effectivement pouvoir vivre leur vie, je vous dis, on a une relation que je qualifierais même d'exceptionnelle, et j'en suis tellement fière. S'il y a une réussite dont je suis très fière dans ma vie, c'est cette relation que j'ai avec mes enfants. C'est vraiment la première chose qui me vient à l'esprit quand on me dit « qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie ?» Donc c'est à ce niveau-là où j'ai appris à laisser aller et à faire confiance dans leurs ressources, dans leurs capacités, dans la vie. Et me dire que ce qu'ils traversaient, ben, c'était bon pour eux, qu'ils en avaient besoin. Tout comme moi, j'ai traversé des choses extrêmement difficiles dans ma vie, et ça n'était pas là pour rien. Donc, si je l'applique pour moi, respect de l'autre, j'ai à l'appliquer pour l'autre. Mais c'était beaucoup plus difficile. Autant j'y arrive très très bien avec mes clients, autant pour mes enfants, c'était extrêmement difficile. Et c'est là où j'ai eu à lâcher prise, vraiment.
Oui, c'est certain que nos enfants sont nos outils, en quelque part, et nous aussi, les parents, pour les enfants, certainement, quand on regarde ça des deux côtés. Jacqueline Arbogast, ce fut un grand bonheur de vous recevoir à la Voix du lâcher-prise. Je vous souhaite de continuer avec tout plein de soleil, de grands succès, et ce sera toujours un plaisir de vous revoir. Merci.
Merci, Dolores. C'est vraiment, vraiment un plaisir pour moi. Et puis, ça me fera plaisir de revenir, vraiment.
Et vous, chers auditeurs, je vous souhaite une semaine remplie de soleil, puis de la facilité dans vos lâcher-prise, et surtout, que le meilleur soit pour vous. Bonne semaine!
C'était La Voix du lâcher-prise. Pour rejoindre Dolores Lamar sur Internet, inscrivez Institut Dolores Lamar Plus. Cette émission vous revient tous les dimanches à 10h. La Voix du lâcher-prise est une production de Radio Mieux-Être.